quelques promesses liées à la mort de Jésus à la croix, et parfois si on l'ignore, on ne vit pas pleinement ce que le bénéfice de la croix veut nous apporter. Par exemple, 1 Pierre chapitre 2 verset 24 dit ceci: lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Je ne voulais pas faire une leçon de conjugaison, mais vous avez été guéri. Ça suppose que la guérison m'a été appliquée. Ce n'est pas nous qui cherchons la guérison, mais la guérison a déjà été obtenue. Il y a des promesses qui ne sont pas des promesses en l'air. Suivez-moi. Il y a des promesses de Dieu qui sont devenues maintenant des faits divins, c'est-à-dire des faits déjà accomplis, qu'il faut le vivre. L'enlèvement, c'est une promesse. Mais être guéri par les meurtrissures de Jésus, ce n'est pas une promesse. C'est un fait. Il faut le saisir comme un comprimé que je prends pour me guérir. Et ça, c'est par la foi que le Seigneur t'a tout accompli. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire, mais je veux me regarder le temps pour ne pas me trop déborder. Si je ne finis pas ma prédication, ce n'est pas un problème. On le reprendra une autre fois. On va lire 3 textes. Ne descends pas de ta croix. Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ comment ? Crucifié. Je reprends ce verset. Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Deuxième texte. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Et le dernier, qui correspond au titre, c'est les badauds qui se moquaient de Jésus. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, non, ça c'est déjà fait, le suivant, le verset 3, l'autre tableau. Montez. Sinon, je continue. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Quel défi. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas descendre de la croix en ce moment-là? Dites-moi. Et pourquoi il ne l'a pas fait? L'histoire de descendre, nous le voyons déjà dans l'Ancien Testament. Je vais vous en citer 2. Élie était en confrontation avec Akaz, qui a succédé à Akab, mauvais roi. Ce roi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait sur un treillis, il est tombé, il s'est cassé le dos. Il est toujours resté alité. Et il demandait à ses sujets d'aller chercher une diseuse de bonne aventure pour venir lui appliquer des guérisons. Malheureusement, sur leur chemin, ils sont tombés sur le prophète Élie. Élie a effrayé, ils sont repartis par 2 fois. Et ils sont allés faire le compte rendu à Akaz. Il dit que tu nous as envoyés pour aller voir cette diseuse de bonne aventure là. Mais chaque fois que nous montons, on trouve quelqu'un toujours habillé en tenue de chameau. Mais il nous fait toujours peur. Et il a dit, ça, c'est Élie. Il a dépêché une escouade de 50 hommes d'aller le chercher. Et en ce moment, Élie était au sommet de la montagne, en sécurité. Et pour pouvoir l'atteindre, que dit les soldats? Il a dit, homme de Dieu, le roi nous a envoyé pour venir te dire de descendre. Élie a dit pas quelque chose, je ne descends pas. Il a invoqué le feu les a cramés par 2 ou 3 fois. Et à la 3e fois, ils venaient en rampant. Et Dieu leur a dit, laisse-leur la vie sauve. Ça, c'est le premier point. On voit derrière la croix cet écho de la réalité. descends de ta croix. Le deuxième événement, c'est dans le livre de Néhémie. Néhémie était en construction de la muraille de Jérusalem. Au cœur des travaux, ses ennemis cherchaient à bloquer le travail, à les perturber. Ils ne sont pas parvenus. Et à chaque opposition, la densité de l'opposition augmente. Et cette fois-ci, il était en plein travaux. Ils ont envoyé, dit, Néhémie, descends de là où tu es, tu nous retrouves dans la vallée de Nô. On va discuter. Néhémie a dit que je n'ai rien à voir avec vous. J'étais en train d'exécuter un travail que Dieu m'a demandé de faire. Si je descends pour aller vers vous, le travail sera interrompu. Et je sais que vous cherchez à me piéger. Je n'irai pas. Voilà, c'est le même esprit qui apparaît ici. Les hommes ont changé, mais le diable ne change pas par son esprit. Et c'est le même esprit au travers des badauds, des soldats, et qui s'adressait à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, serait-vous, vous feriez quoi? Je veux lui en donner plein la vie, il va voir. Mais Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il était cloué sur la croix. Mais les clous que nous avons vus, ce sont des clous physiques. Toute scène de la croix, toujours une deuxième lecture. Et c'est cette deuxième lecture que je verrai vous faire toucher du doigt. Et si nous le comprenons, nous nous approprions le bénéfice que nous donne l'œuvre de la croix. Jésus pouvait descendre, parce qu'il avait fait une scène de démonstration. Quand les cohortes étaient venus le chercher, il leur a posé la question, qui cherchait? Vous. Il a dit, Jésus de Nazareth. Il a dit que c'est moi. Dès qu'il a dit que c'est moi, c'est comme si on a tiré le tapis sous les pieds des soldats. Ils sont tous tombés. Rien que le souffle de Jésus suffisait de les mettre par terre. C'est pour dire que si vous voulez que je descende de la croix, j'en ai les capacités. Parce qu'il a fait comprendre à Pilate. Si moi, au royaume de ce monde, les soldats viendraient combattre pour moi. Mais moi, au royaume n'est pas de ce monde. Quels sont les clous qui ont touché ou rivé Jésus à la croix? Le premier qui a tenu Jésus à la croix, c'est le clou de son obéissance. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais compris le message de l'Évangile, parce qu'ils n'ont regardé que le crucifié du calvaire qu'avec des yeux humains. Si nos regards intérieurs étaient éclairés par le Saint-Esprit, on serait amené à voir autre chose. Pour ceux du monde, Jésus était un être extraordinaire, un bon tribun. Quelqu'un, quand il te parle, il t'emporte avec lui. Et ils n'ont jamais vu ça. Pour eux, la croix, c'est l'aboutissement de son franc-parler. Dans une génération qui n'aimait pas s'entendre dire la vérité, comme dans notre période maintenant. On ne veut pas écouter la vérité, on préfère les arguments de la force. Combien les chroniques des médias défraient des histoires de ce genre? Même pas plus tard qu'il y a 2 jours à la Grand Combe. Quand les mots manquent, je dis M-O-T, quand les mots M-O-T manquent pour exprimer les mots M-A-U-X des hommes, il y a une seule chose qui intervient. C'est la violence. C'est la violence. Cette génération ne veut pas entendre parler de la vérité. Et ils pensaient que c'est parce que Jésus disait trop la vérité de manière révolutionnaire que cela menait à la croix. Oui, j'admets qu'il y a eu une petite part de vérité dans ce qui était avancé, mais pas que. La Bible nous apprend que Jésus-Christ est mort, non pas accidentellement, mais selon un plan qui a déjà été préétabli par Dieu. L'apôtre Pierre nous dit, par exemple, qu'il est l'agneau de Dieu, prédestiné dès avant la fondation du monde. L'Ancien Testament est rempli de prophéties concernant la venue du Seigneur, sa naissance de manière précise, sa vie, sa croissance, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Tout est rempli de détails, de traits précis et qui disent d'avance ce qui devait advenir de Jésus-Christ. C'est dire que le Seigneur est venu sur un plan préétabli. Rome n'avait pas encore existé lorsque le plan de Dieu avait été élaboré. Le système de mise à la croix n'a pas encore été inventé lorsque le plan de Dieu s'est mis en route. Et Rome a existé après et le système de mise à croix est venu après. Pour accomplir ce que la prophétie avait déjà annoncé. Égarés dans les dédales de nos fautes, nous étions incapables de retrouver le chemin qui conduisait à Dieu. Alors, puisque l'homme ne pouvait pas aller à Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme, par amour. Dieu a dressé le plan du salut des hommes. Et pour parler langage humain, Jésus-Christ, la troisième personne de la Trinité, la parole incarnée, a donné sa ceinture, a donné son adhésion au plan divin, en disant, « Père, me voici, je viens sur la terre des hommes pour accomplir ta volonté. » Tout était obéissance dans la vie de Jésus. Et sa mort n'a pas été un accident. Il a rendu sa vie. Jésus dira en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et lorsqu'on lui dit, Jésus, descends de ta croix, il n'a pas répondu. Le silence fut sa réponse. Un silence qui voudrait dire, je ne peux pas descendre de la croix, parce que ce serait cesser d'obéir à Dieu. Je ne peux pas descendre de la croix, parce que j'aurais renoncé à ma nature d'obéissance. Oui, ce qui a tenu Jésus à la croix, c'est d'abord le clou de l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite de Dieu, du trône de Dieu. Voyez-vous, tous les champions de la foi ont donné l'exemple de la persévérance, de la lutte par la croix. Et nous sommes invités à les imiter. Continuez à marcher dans la foi, les yeux fixés sur Jésus. Il n'a pas hésité à affronter la mort. Il n'a pas hésité à affronter l'opposition majeure. Injuste. Il a ainsi vaincu la mort et il vit maintenant éternellement assis à la droite de Dieu. Et la droite de Dieu, c'est le centre de l'autorité de Dieu. Les souffrances ne sont pas nécessairement une sanction divine, contrairement à ce que beaucoup pensent. Quand on souffre, on dit que tiens, tu as fait quoi dans ta vie pour mériter cette souffrance? Je vous le dis, la souffrance n'est pas une sanction venant de la part de Dieu. Contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est une bénédiction parfois. Dieu nous fait passer par la souffrance comme un orfèvre qui passe l'or par le feu. Quand l'orfèvre passe l'or par le feu, c'est parce qu'il n'a pas aimé l'or. Bien au contraire, il cherche à obtenir quelque chose de précieux. Et l'auteur de la Bible ose affirmer que Dieu est capable d'utiliser la souffrance pour faire progresser ceux qu'il aime, tout comme un père corrige son fils. Je crois que cette interprétation de la souffrance devait encourager beaucoup de chrétiens. Hein? La souffrance fait partie du lot de la bénédiction. Et parfois, Dieu utilise la souffrance pour dilater, pour nous élargir. Il y a des bénédictions que nous ne pouvons pas atteindre, et que Dieu utilise parfois la souffrance pour le transformer. Dieu est un divin ingénieur. Il voit la fin. Il ne voit pas les parcours, il voit la fin. Et les parcours font partie de la locomotive qui nous mène vers cette fin. Voilà le premier clou qui est arrivé Jésus à la croix. Le clou de l'obéissance. Et qu'en est-il de nous? Quelle est la marque de l'enfant de Dieu? Connaître la parole de Dieu, c'est une chose. Et permettez-moi de le dire avec beaucoup plus de gravité. Notre ennemi, notre adversaire, le diable, il connaît la parole aussi. Mais est-ce qu'il obéit? Lui, il n'obéit pas. C'est pour dire que la marque de l'enfant de Dieu, c'est l'obéissance à la parole. C'est l'obéissance à la parole qui nous affranchira. On dit souvent, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Mais ce n'est pas une connaissance intellectuelle de la vérité qui va nous affranchir. Bien au contraire. C'est la mise en pratique de cette parole qui nous affranchira. Et c'est ce que Jésus nous enseigne. On peut creuser. Mais je m'arrête là, à ce niveau-là. Le clou qui est arrivé Jésus à la croix, c'est le clou de l'obéissance. Au-delà de ce clou, fer en fer forgé, que les hommes ont martelé sur ses mains, il y a le clou invisible, celui de l'obéissance à la parole de Dieu, qui lui fait dire que si tu descends de la croix, tout s'écroulerait. Et par obéissance à Dieu, il y est resté. Le deuxième qui a tenu le Seigneur à la croix, le clou, celui-ci encore, c'est le clou de l'amour. La Bible dit qu'il y a plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et d'ajouter, Dieu, lui, il prouve son amour à notre égard à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. On tentera de dire que le sommet de l'amour de Dieu pour les pécheurs, c'est la venue de Jésus-Christ à la crèche. Bien que la venue à la crèche ait sa place, assurément, ce n'est pas le sommet de l'amour de Dieu. On penserait que le sommet de l'amour de Dieu, puisque la Bible le dit, qu'il a mis un comble à son amour en ce moment-là, dans Jean chapitre 13, où Jésus s'est saint, le rein avec de la serviette, et il a pris un seau d'eau pour laver les pieds de ses disciples. On penserait que c'était le comble de l'amour de Dieu. Mais à mes yeux, ce n'est pas le comble de l'amour de Dieu. C'est là un endroit dans le monde où l'amour de Dieu a débordé. Ce n'est pas Bethléem. Ce n'est pas cette soirée de jeudi où il a lavé les pieds des disciples. Mais c'est à la croix. C'est à la croix. Quand Dieu veut mesurer son amour à notre égard, il regarde la croix. Il a pris comme unité de mesure la croix de son Fils. Comment nous pouvons prouver en retour notre amour pour le Seigneur? Si lui, il a prouvé son amour à notre égard en envoyant son Fils à la croix, nous en retour, comment nous allons prouver notre amour pour le Seigneur? Voilà pourquoi la meilleure des choses à faire pour Dieu, c'est que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Quand ce que je fais pour le Seigneur n'est pas le meilleur, c'est insuffisant. À mon niveau. Parce que mon meilleur n'est pas le vôtre. Votre meilleur n'est pas le mien. Mais si je fais le maximum qui est le mien, Dieu le voit. Par rapport à un denier qu'une femme veuve avait jeté dans la corbeille, et par rapport à des centaines de milliers que les pharisiens mettaient, sur les questions en valeur absolue de le mesurer, on dira que cette femme n'a rien donné qu'une broutille. Mais la façon par laquelle il l'a fait, la situation dans laquelle elle se trouvait, et qu'elle a osé poser cet acte aux yeux de Dieu, ça a éclipsé tout ce que les autres ont fait. Je le redis encore. Lorsqu'on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes à Dieu, c'est encore insuffisant. Là, je vous pousse dans notre dernier retranchement là. Parce que la bénédiction du Seigneur se déverse à partir du moment où nous allons au fond de nous-mêmes. C'est quand nous serons vidés de nous-mêmes que la grâce de Dieu se manifeste. C'est un secret de la foi. Et quand on n'y arrive pas, on ne vit pas le standard de la vie que le Seigneur nous demande. On ne réfléchit pas la grandeur de Dieu dans ce sens-là. On est incapable de beaucoup de choses. Parce que ce que Dieu fait, il le fait au travers de nous. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on soit vidé de nous-mêmes. Pour que Dieu prenne la relève. Quand on est trop fort de nous, Dieu ne manifeste pas sa présence. Quand les gens se moquent de toi en disant, ah, avec toi, avec ton bon Dieu, là, ils se moquent de ta foi chrétienne. Quand les gens te ridiculisent et te méprisent parce que tu es chrétien, c'est une manière pour le diable, au travers de cette personne, de te dire, descends de ta croix. Et malheureusement, certains y parviennent. Quand vous subissez une humiliation au cours de Jésus, la Bible a dit, n'en ayez pas honte parce que la grâce de Dieu repose sur vous. Bien au contraire, vous devez vous réjouir. J'ai oublié, c'est quel homme de Dieu qui va sur le parc en Angleterre, et quand il prêche la parole de Dieu, il ne reçoit pas de coups de caillou, il revient à la maison, il pleure. Il a dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas touché le cœur des gens. J'aurais aimé être comme balance de cailloux, parce que je sais que j'ai touché le but. On n'est pas du monde. Le monde ne peut pas nous aimer. Il ne peut pas nous assimiler. En médecine, il y a un phénomène qui arrive qu'on appelle le phénomène de greffe ou de rejet. Quand on prend un membre de quelqu'un d'autre pour mettre sauver quelqu'un, il y a un phénomène qui se projette là, phénomène de greffe ou de rejet. Soit le greffe, il prend, soit il ne prend pas. On est des étrangers. Notre ADN n'est pas ADN du monde. Et quand tu veux t'allier avec le monde te repousse sans que tu le veuilles. Ah ouais? C'est une réalité. Il y a des gens qui pleurent parce que le monde ne les aime pas. Tu pleures parce que le monde ne t'aime pas. Mais tu devais te réjouir. Ah ouais? Si le monde ne m'aime pas, je suis dans le vrai. Pour Jésus aimer, c'était désirer le bonheur des hommes malgré leur ingratitude qui lui a brisé le cœur. Au pied de la croix, je le répète, il y avait des soldats, des badauds, des prêtres. Et comme ça, c'était peu de choses de lui avoir enfoncé les clous dans les mains, il lui a encore lancé ce défi. Si tu es le Fils de Dieu, descends et nous croirons en toi. Là, c'est de la bouche du diable. Quand Jésus avait rencontré le diable après 40 jours de jeûne et de prière, il a dit que si tu es le Fils de Dieu, fais quoi? Transforme cette pierre en. Ben ouais. C'est une tentation. Jésus dit, je ne peux pas descendre par son silence. Parce que je ne cesse pas d'aimer malgré mes souffrances. Jésus n'a pas perdu le contrôle. Dans une souffrance atroce, il dit à Jean, voici ta mère. Il a dit à Marie, voici ton fils. Jusqu'au dernier moment, il n'a pas perdu le contrôle. C'était le deuxième clou. Le premier était celui de son obéissance à Dieu. Le deuxième clou qu'il attacha à la croix, c'était le clou de l'amour. Alors vous allez me dire, le troisième c'est lequel? De celui qui le retient au pied. C'est le clou de nos péchés et de nos transgressions. Là je l'ai intitulé le concept de l'identification. Quelque douloureux qu'aient été les premiers clous, celui de l'obéissance et celui de l'amour, bien qu'ils avaient été terribles. Mais le troisième clou, c'est celui de nos péchés, de nos transgressions. S'il est vrai que tant de gens n'ont jamais bénéficié du message de la croix, c'est parce qu'ils ne se sont jamais vus eux-mêmes dans le drame. Pour beaucoup, l'évangile, c'est un événement vieux de 2000 ans. Une vieille histoire qui se perd dans la nuit de temps. Si vieille qu'ils ne peuvent pas voir la relation qui les unit personnellement à cet événement. Or, nul n'y est étranger, parce que notre histoire à chacun est écrite dans la croix. Lorsque l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, s'est trouvé devant une grande foule, qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est vous qui l'avez livré, c'est vous qui l'avez crucifié. Ils n'étaient pas là. Certains n'avaient pas assisté au spectacle. Et ce disant, Pierre est en train de les associer à cet événement. C'est dire que Pierre actualise la croix du calvaire. Ce n'est plus le message vieux de 2000 ans, mais c'est un message d'actualité. C'est notre histoire à nous. Si l'apôtre Pierre était parmi nous aujourd'hui, il nous regarderait dans le blanc des yeux. Il a dit que c'est vous qui avez tué Jésus. C'est nous qui l'avons tué. Nous avons tous joué notre part dans le drame de la croix. N'oublions jamais cela. Si on oublie, on n'est pas au bénéfice de l'œuvre. Tous les péchés qui ont entouré la croix de Jésus se retrouvent dans toute vie humaine aujourd'hui. C'est l'avarice de Judas, mais on retrouve l'avarice dans notre vie. Ce sont l'amour immodéré de l'argent. Ce qui a conduit Jésus à la croix, c'est le reniement de Pierre. Et nous voyons que dans notre vie, il y a des reniements. Il y a des gens qui ont commencé une vie chrétienne, après ils se sont relâchés. Oh, je ne fais plus comme avant parce que je ne reçois rien et pas de félicitations. Mais vous le faites pour qui? Dites-le-moi. Vous manifestez votre salut pour qui? Pour être applaudi de qui? La preuve en est que quand le Seigneur a été conduit au supplice,
Les femmes de Jérusalem le suivaient en le plaignant, en pleurant sur lui, tout en se frappant la poitrine.
Un peu vexé, Jésus s'est retourné et leur a dit, « Vos larmes déplacées, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur qui ? Sur vous et vos enfants. »
Ce que je suis en train de faire, c'est pour vous, là. C'est vos péchés qui m'ont conduit à la croix. Au lieu de vous plaindre de moi parce que je vais connaître une mort, pleurez sur vous et sur vos enfants. C'est vos péchés, ceux de vos générations, qui m'ont conduit à la croix.
Et c'est pour soi-même qu'il faut d'abord pleurer. Car la responsabilité de ce qui s'est passé à la croix pèse sur nos épaules aujourd'hui. Et la Bible dit, je cite, « En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. » Vous avez entendu ? Je reprends. « En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, la croix, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. » On ne va pas subir la croix comme Jésus a subi. Mais Jésus l'a dit sous une autre forme. Si vous ne portez pas votre croix, vous n'êtes pas apte à me suivre. Et celui qui a les mains attachées à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Et la phrase continue. Sachez bien ceci. L'être humain que nous étions auparavant avait été mis à mort avec le Christ sur la croix. C'est par la foi. Ensuite, afin que notre nature pécheresse soit détruite, et que nous ne soyons plus des esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. C'est pour ça que celui qui est en Christ ne pèche pas, même si vous commettez une faute. Il y a une subtilité là dans cette histoire-là. Je vous dis que vous êtes les enfants de Dieu, vous ne péchez pas. Vous allez dire que ah non, je vis encore dans la chair, je pêche. Non, aux yeux de Dieu, nous ne péchons pas. Nous commettons des fautes qui aussitôt est rentré en recyclage avec l'œuvre de Christ. La nature du péché n'habite plus en nous. Christ l'a écrasé. Mais cependant, comme nous avons été formatés dans notre être, par être des pécheurs, nous commettons parfois, de manière inattendue, des péchés, par-ci et par-là. Mais si c'est un péché récurrent dans notre nature, nous avons besoin de délivrance. Il faut s'approprier l'œuvre de la croix. Souvenez-vous que la croix de Christ, et je rajoute celle-ci pour terminer. Souvenez-vous que la croix de Christ, et quand on entend par croix, c'est les souffrances que nous subissons au nom de la justice de Dieu. C'est ça la croix. Souvenez-vous que la croix de Christ opère en nous à travers les épreuves de la vie. Elle consiste à la mise à mort du vieil homme que nous étions, ou de la vieille femme, et de la nature d'Adam qui est rebelle à la volonté de Dieu. Cette nature est centrée sur elle-même. On l'appelle en langage courant une vie égocentrée. Mais une vie égocentrée, c'est un terrain favorable aux souffrances. Une vie égocentrée, c'est une vie d'attente. J'attends ce qu'on m'aime, j'attends ce qu'on me donne, j'attends ce qu'on me donne. Mais comme ça ne vient pas, je suis frustré. Et c'est une vie d'énorme souffrance. Par contre, une vie décentrée, mise sur Jésus, oh, quelle liberté! Tu m'aimes, je le prends. Tu ne m'aimes pas, mais je le prends. C'est une grâce. Parce que ton manque d'amour pour moi est une moyenne occasion de recevoir la bénédiction de Dieu. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir au désir de ce corps. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, faisons nôtre cette parole. Quant à nous ou quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Et l'apôtre Paul le dira. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oh, mais oui. Parce que si Christ vit en vous, vous avez la raison de vous plaindre. Simplement, si Christ ne vit pas en vous, c'est parce que la place ne lui a pas été suffisamment laissée. C'est pourquoi Dieu utilise la croix pour nous vider. Pour faire de la place que le Saint-Esprit prenne le contrôle et nous gouverne. Voilà.
Remerciez Dieu pour les douleurs que vous avez. Ah oui. Ah oui. Il y a des gens qui font le point, mais faites le point avec Dieu. C'est-à-dire, voilà. C'est le brisement par la croix qui nous conduit dans plus d'intimité avec Dieu. Car la croix opère en nous pour faire mourir le vieil homme en vue de laisser davantage place au Saint-Esprit qui est censé nous gouverner selon la volonté de Dieu. Juste un mot pour terminer. Juste un mot. Il y a assez de souffrance dans la croix. Suffisamment de souffrance dans la croix pour expier tous nos péchés. Il y a assez d'obéissance. Assez d'obéissance de Christ dans la croix pour pardonner toutes nos désobéissances. Et il y a assez d'amour. Il y a assez d'amour à la croix pour couvrir tous nos péchés. Recevez ce message de la part du Seigneur. Je vous invite à la prière. Parlez à Dieu, s'il vous plaît. Que les jours qui se succèdent ne se ressemblent pas. Qu'un dimanche soit un dimanche d'engagement. Seigneur, en sortant d'ici, je me fixe un cap, un objectif. C'est celui de me débarrasser de tel, de tel, de tel, de tel, de tel. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Alors je vous laisse le temps, nous le temps, de nous humilier devant Dieu. Et après je vais prier. Oui, Seigneur, ta croix a été le lieu où tu as détruit tout ce qui nous condamnait. Ta croix n'est pas un événement historique seulement. Ça a été le lieu où tu as tout détruit ce qui nous opprimait, ce qui nous mettait l'esclave, ce qui nous asservissait, ce qui nous courbait. Au lieu que nous regardions vers le ciel, nous regardons que vers la terre. C'est le pouvoir du péché. Tu as brisé le pouvoir du péché et ses conséquences. Tu as effacé les maladies, les infirmités. Parfois des liens démoniaques qui pèsent sur nos vies comme des nuages noirs. Seigneur, je proclame ces nuages soient dégagés. Toute malédiction, qu'elle soit générationnelle, nous le brisons. Parce que tout est englouti par la puissance de Christ à la croix. Ce n'est pas à moitié que le bouc émissaire, Seigneur Dieu, prend le péché des autres. C'est entièrement qu'il prend ce péché. Et s'il meurt, il meurt pour nous délivrer. Et Jésus, en bouc émissaire, a tout porté nos péchés. Même les générations qui nous ont précédés. S'il est capable de nous délivrer du pouvoir du péché de Adam et Ève, qu'en est-il de nos ancêtres? Leur force n'a aucun pouvoir sur notre vie parce que nous sommes nés de Dieu. Et c'est le pouvoir de Dieu qui gouverne notre vie. Merci Seigneur de ce que tu agis. Par ta mort, afin que ta vie se manifeste en même temps en nous. Donne-nous de mourir avec Jésus qui a porté nos péchés et donne-nous de ressusciter avec le Christ qui devient Seigneur et qui domine notre vie. Nous rendons gloire à toi, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.